MDR.
Action, bonsoir à tous mesdames et messieurs.
Salut cher auditeur, je vous propose d'écouter
MDM sur le 93.8 et le 101.1.
À la technique, Pierre-Alain qui a son bouquin dans la poche.
Camille avec la petite yeux encore.
Je sais pas pourquoi je suis là.
MDM.
Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de radio MDM. Quelle bonne idée, très chers amis, avec invité, c'est matinal, Sophie Geoffrion, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Parce que vous découvrez nos studios, Sophie
Geoffrion. Absolument,
Geoffrion.
Je suis ravie.
J'avais entendu parler de vous quand même il y a quelques temps de cela, parce que vous proposiez à l'époque déjà, notamment du côté de la médiathèque du Marsan,
absolument,
des rendez-vous avec votre association Philolande, puisque philosophe vous êtes, il faut bien le dire, alors Sophie.
Absolument, philosophe et avec une particularité, c'est que je suis philosophe praticienne.
Ouais.
Voilà, c'est-à-dire que je suis sortie de l'académisme et je vais véritablement auprès et à la rencontre de tous les publics.
Mettant en pratique ça au quotidien, rencontrant, en faisant des rencontres, comme ce sera le cas, parce que c'est aussi pour ça qu'on en cause, jeudi soir au Théâtre du Péglé, en partenariat avec le Théâtre des Lumières. C'est une grande première dans notre département, que ces routes théâtre et philosophie se croisent. Un projet qui a été reporté, je crois, Sophie.
Oh, ouais, c'est ça. Qui a été reporté, on l'avait prévu initialement la veille du premier confinement, pour tout vous dire.
Ouais. D'accord.
2 ans qu'on attend. Avec impatience.
Et oui, et donc l'importance de ça et l'invitation que l'on vous adresse d'aller au Théâtre du Péglé jeudi à partir de 20h30, c'était déjà sur la première initialement le thème du pouvoir qui
C'était déjà initialement le thème du pouvoir. On a voulu, nous ce qu'on souhaite, c'est vraiment que ce soit, qu'on puisse développer avec plusieurs thématiques, qu'on puisse renouveler cette expérience et ce spectacle vivant et philosophique. Et le premier, on voulait que ce soit le pouvoir, parce que c'est un thème extrêmement... problématique au quotidien.
Ouais, il n'y avait aucun rapport, même s'il en a de plus en plus maintenant avec ce qu'on sait au niveau de notre décor politique, n'est-ce pas ? Le rapport aussi peut-être avec ce qui se passe au niveau international aussi, parce que c'est d'actualité. Quand on parle pouvoir, je ne sais pas, moi, un personnage comme Vladimir Poutine, vous devrez en avoir des choses à dire sur ce rapport au pouvoir, j'imagine.
Disons qu'il impose un certain pouvoir, une certaine puissance. Est-ce que c'est véritablement ça le pouvoir ? Ça, c'est une autre question.
Ça fera partie des questions posées.
Ça fera absolument partie des questions posées. On va essayer de décliner le thème du pouvoir dans un premier temps à l'aide d'un corpus de textes choisis qui seront vraiment mis en scène et joués. Il ne s'agit pas du tout de lecture, il s'agit vraiment d'une mise en scène. Et vous allez voir, ça sera assez rock'n'roll, parce que sur le coup, mettre en scène du Nietzsche, du Platon, de l'Épictète, enfin, c'est quand même assez c'est rock'n'roll. C'est-à-dire qu'il y a un côté vivant et vibrant, c'est-à-dire que la pensée ne sera plus un peu sèche et âpre et aride. Mm-hmm. Tout à coup, elle va s'incarner avec les comédiens sur le plateau et elle va devenir extrêmement vibrante. Mm-hmm. Et ça sera intéressant pour la seconde partie, qui sera la partie philo, où on va discuter ensemble.
Et là, c'est vous qui serez à l'œuvre, donc, dans une discussion avec le public sur ce thème des questions posées, puis des éclaircissements que vous amènerez.
En fait, l'idée, c'est que je ne vais pas faire une conférence, c'est pas du tout le but, je vais vraiment discuter avec tout le monde à partir de ce qu'ils vont ressentir et penser à l'issue de la représentation théâtrale. Mm-hmm. Donc vraiment, on va cueillir sur le moment ce qui va se passer sur le moment. Mm-hmm. C'est vraiment une expérience vivante. Je ne sais pas du tout où on va, quelle sera la direction. Ça se trouve, vous évoquez Poutine, mais ça ne va pas du tout être Poutine.
Bien sûr.
Ça sera peut-être le Covid, allez savoir. Il y a quand même 2-3 thèmes
d'actualité. Oui,
ou les actualités, ou pas du tout. Ou ça sera vraiment ma propre, moi en tant que sujet, ma relation au pouvoir. Qu'est-ce que j'en fais ? C'est de l'autorité, c'est de la domination. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est juste ? Vous voyez, toute une série de questions qui vont fleurir comme ça et jaillir. Grâce au théâtre.
Ah, parce qu'au-delà de ces considérations politiques, le pouvoir, ça imprègne aussi notre quotidien. La relation du pouvoir qu'on a au quotidien, on l'a vraiment, on ne s'en rend peut-être pas forcément compte, mais il y a de ça. Quoi.
On l'a tout le temps, on ne cesse d'obéir à tout. Mm-hmm. À tout et tout le temps. Et justement, pourquoi on obéit autant ? Ça, c'est une question qui intéresse et qui est celle du pouvoir aussi. Puisque c'est pour qu'il y ait un pouvoir, il faut dans un premier temps, on peut imaginer qu'il faut forcément un dominant, un dominé. Mais en réalité, ce n'est pas exactement ça. Parce que dans une relation, par exemple, parentale, il y a une relation de pouvoir, mais il n'y a pas un dominant, un dominé. Il y a autre chose. Et cette autre chose s'appelle l'autorité. Et l'autorité, ça sert à augmenter l'autre, et non pas à le diminuer en le dominant.
Un tantinet profane, votre serviteur, en termes philosophiques, même si je m'intéresse à tout ça, évidemment, pour élargir aussi notre perception du monde. Ah, le rafale, veux-tu bien te taire ? On a même, je ne sais pas si on l'entend à l'antenne, mais on bien fêter tout ça avec nos amis de la base aérienne de Marsan. Je referme cette parenthèse complètement inutile, même si dans l'univers militaire, oh là, en termes de pouvoir aussi hiérarchique, oui, c'est une sacrée illustration, quoi. Au niveau de philosophique, le pouvoir, les principaux philosophes, tout le monde l'a abordé un petit peu, Sophie ?
Oui, c'est un grand thème parce que c'est un thème politique. Mais disons que dans le champ philosophique, il y a des philosophes plus politiques que d'autres. Et le premier, évidemment, c'est Platon. Platon qui a écrit La République et qui ne parle que de ça. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? Et dans ce grand texte de La République, d'ailleurs, quelques extraits seront joués de La République, seront joués jeudi soir par Laurence et Aurélia du Théâtre des Lumières. Il y aura cette question, qu'est-ce qu'on fait quand on a le pouvoir ? Moi, en tant que sujet, en tant qu'individu. Donc Platon, évidemment, un grand philosophe qui a posé cette question, mais les stoïciens avec Épictète et Marc Aurèle, qui était quand même empereur, il a posé aussi la question du pouvoir. Ça, c'est pour l'Antiquité, puis pour aller très très vite, bien sûr. Autrement, Rousseau, avec la question du contrat social, évidemment, pose la question du pouvoir. Tocqueville, et puis Machiavel. Avec le prince. Voilà, c'est le grand, grand philosophe, mais je le fais très rapidement.
Oui, bien sûr,
mais autrement,
bien sûr.
On pourrait énumérer ça pendant très longtemps. Donc, nous, on a fait un choix, une sélection, et j'ai fait en sorte de faire trois actes pour ne pas traiter que le pouvoir politique, pour traiter aussi une autre forme de pouvoir et montrer que ça peut être autre chose que la sphère politique.
Mmh. Ah, parce que je suis en train de me rendre compte, par exemple, la prise de parole à un micro de matin à la radio, c'est une certaine forme de pouvoir. Enfin, on a une liberté, mais on peut abuser,
après,
pas forcément d'ailleurs, mais il y a de ça, quoi.
Mais le monde de l'entreprise aussi, le monde du travail, c'est une question de pouvoir.
Bien sûr.
Fait, il est partout et il irrigue tous les espaces de notre vie.
Mmh.
Et c'est ça qui est intéressant à... Parce qu'on peut dire, oui, moi, je suis contre le pouvoir. Évidemment qu'on peut le dire et l'annoncer. Et puis mais c'est impossible. Il faut forcément. Mais pour qu'il existe, ce pouvoir, il faut qu'il soit légitime. Donc, il faut qu'il soit juste.
Mmh.
Sans ça, évidemment, c'est la rébellion.
Comment s'est fait la rencontre avec le Théâtre des Lumières, Aurélia, Laurence et
alors,
toute la bande
alors, déjà, à Philolande, que j'ai fondée il y a 17 ans aujourd'hui, j'ai commencé, en fait, mes premiers exercices philosophiques avec le théâtre. Et je travaillais avec Laurence Niazinski, donc du Théâtre des Lumières. Et donc, j'ai beaucoup développé cet axe-là, philosophie et théâtre. Et puis, tout à coup, je me suis dit, mais ça fait très longtemps. Et puis même, parce que j'interviens un peu partout, je ne suis pas intervenue dans les Landes. Et encore moins au Mont-de-Marsan, et encore moins avec le Théâtre des Lumières, qui est quand même une compagnie importante dans les Landes, avec notamment l'école de théâtre, et puis la compagnie de création. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et donc, on a décidé de remonter et d'adapter cette philosophie à l'avant-scène du pouvoir que j'avais déjà proposée ailleurs. Mais là, on a fait vraiment un ajustement et on l'a adapté spécialement pour les Landes. Et la collaboration, elle s'est faite tout naturellement, je vous dis, parce que bon... Voilà, Philoland est une association landaise et montoise, et le Théâtre des Lumières est aussi ici.
Alors, Philoland, les autres actions, vous menez d'autres...
Oui.
Enfin, j'ai posé la question.
Posé la question, donc je vais y répondre. Je me soumets, bien volontiers. Oui, il y a plein d'autres actions. L'objet de l'association, c'est la diffusion et la promotion de la pratique philosophique pour tous, c'est-à-dire pour tous les publics. Jeunesse, et non jeune, j'ai envie de dire. Alors j'interviens aussi bien auprès d'établissements scolaires que dans des EHPAD. Je pars à Paris bientôt pour toute une série d'interventions dans des EHPAD, dans des centres pénitentiaires, mais aussi j'ai un cabinet de philosophie, donc de consultation philosophique. Donc ça permet d'être une alternative à la psy et de prendre en main et en charge ces questions qu'on peut avoir tous les jours et qui ne sont pas forcément pathologiques et psychologiques, mais de faire un tête-à-tête avec un philosophe ou une philosophe. Donc il y a les consultations, il y a toute la collaboration avec le théâtre. Je travaille avec d'autres compagnies de théâtre pour monter des créations. J'ai créé aussi un prix jeunesse, un prix Philosophia Jeunesse, puisque je co-dirige la direction artistique du Festival Philosophia, qui est à Saint-Émilion. Donc oui, ça fait pas mal d'activités, plus des articles évidemment, et l'écriture,
Et les conférences. Vous trouvez aussi le temps de continuer à lire des philosophes dans votre quotidien, de découvrir la philosophie contemporaine par exemple.
Oui, forcément. Disons que c'est une nourriture, c'est pas un boulot pour moi, vous voyez, donc c'est aussi un état, une manière de vivre. Mmh. Donc oui, la philosophie, puis plus on la lit, plus on a de facilité à la lire. Donc oui, et en philosophie contemporaine, oui, des philosophes comme, comme Clément Rosset, que j'invite chacun à aller découvrir, parce que c'est un philosophe du réel en plus, qui était musicien, qui adorait boire, hein, et qui était très vivant. Et en plus, il, c'est génial parce que sa philosophie, elle est très facile à lire, ce qui n'est pas le cas de tous les philosophes.
Ouais, ouais.
Et puis, il fait des petits essais très concentrés. Donc voilà, notamment.
Mais parce que vous évoquez la difficulté, parfois, c'est ce qui peut éventuellement rebuter quand on ouvre un livre philosophique. Les concepts sont un petit peu beaux, mais qu'on ne les a pas forcément. Le langage très précis aussi. En
oui, voilà, c'est un milieu jargonnant, hein, ouais, donc il ne faut pas se le cacher.
Ouais.
C'est pour ça que ça interroge un petit peu le rôle du philosophe, parce que philosophe, c'est pas aussi son rôle tout simplement que d'aller à la rencontre de chacun pour aider à éveiller un questionnement et puis accompagner surtout ce questionnement.
Mmh. L'idée que ça peut être un éclairage aussi au quotidien pour tout le monde, hein,
la philo. Bien sûr.
Vous êtes convaincu, évidemment, c'est ce que vous faites passer à travers toutes ces actions.
Oui, je suis convaincu, et puis même à titre personnel, je suis convaincu. Ça permet vraiment de traverser des situations qui peuvent paraître très difficiles.
Mmh. Est-ce que sur cette période depuis 2 ans, là, au niveau justement de ce que vous savez, des lectures ou autres philosophiques, est-ce qu'il y a des textes qui ont été écrits autour de tout ça, autour de cette sensation qu'on a quelque chose qui se passe actuellement, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas.
Oui, il y a eu beaucoup de textes, mais il y en a eu beaucoup, hein, à foison même, beaucoup.
Ouais.
Je dois avouer que je n'ai pas tout lu, et heureusement parce que c'est impossible, ça, j'aurais plus le temps de parler avec vous.
Mm-hmm.
Mais il y en a eu beaucoup, beaucoup trop à mon sens. Mmh. Je pense que c'était bien aussi de couper le son, pas de la radio évidemment, mais
merci Sophie.
Certainement pas de la radio, mais il fallait un petit peu couper le son. Enfin, ce qui me concerne, j'ai lu Sigil amer de Cynthia Fleury, qui aborde en fait, c'est étrange, pas forcément la question du confinement, mais la question du ressentiment. Et je pense que toutes ces colères emmagasinées, toutes ces rages, cette violence intérieure, cette détestation de l'autre qu'on voit de plus en plus, et ces tensions qui émergent, je pense que ça a été un livre, en ce qui me concerne, qui m'a permis de comprendre davantage.
Mmh. Et puisque, comme je disais tout à l'heure, que culture et confiture, moins on en a, plus on l'étale. Je reparle à chaque fois du fait que pendant le premier confinement, relire les classiques. Moi, j'avais jamais lu Rousseau et j'ai eu la possibilité de lire Rousseau pendant le confinement. J'avais des ouvrages tout à côté, à proximité. Voilà, j'ai découvert ça et vous l'avez évoqué tout à l'heure.
Le contrat social notamment, ou les rêveries du promeneur. Oui,
ouais.
Oui, mais là, la culture. Vous savez, la philosophie, c'est pas forcément. Ça concerne pas que les érudits. C'est ça qui est intéressant avec cette discipline. C'est qu'effectivement, elle est érudite en ce sens que, comme je le disais, il y a du jargon, il y a des références. Mais quand on la livre et quand on la délivre à un public avec le théâtre pour elle tout à coup elle est étonnement et émerveillement. C'est ça le premier acte de la philosophie, s'étonner. Donc ça, c'est on n'a pas besoin de grande érudition. C'est utile après, hein, pour accompagner
bien
un
sûr,
parcours
bien
c'est
sûr.
Super utile, mais au début, initialement, non.
Et vous vous êtes senti l'âme d'une philosophe ou de s'orienter vers la philosophie très vite, Sophie ? Comment ça s'est passé ?
Ah oui, en ce qui me concerne, c'était assez rapide. Oui, ça a été assez rapide.
Dans vos jeunes années, comme ça, vous avez senti un attrait, la lecture, les choses qui sont tombées
Oui, parce que vous savez, parfois, la philosophie, c'est toujours... la vie, c'est toujours une rencontre, j'ai l'impression de faire Édouard Baird.
J'adore Édouard,
mais en fait, c'est ça. Je peux vous dire, en fait, c'est ça. C'est tellement drôle que ça finit par être très vrai.
Mm-hmm.
Évidemment, quand on rencontre un texte, quand on rencontre une expérience qui va nous faire changer parfois de parcours et parfois qui va semer quelque chose en nous, qui germera un peu plus tard. Et ça finit toujours par fleurir, ce qui a été semé. Toujours. Donc, en ce qui me concerne, oui, j'ai lu Pascal assez jeune et ça a été un choc.
Ouais.
Et grâce à l'école, bien évidemment, enfin grâce au collège.
Mmh.
Et ça a été, ça a été un choc. Et forcément, quelque chose a été semé à ce moment-là.
Je suis paumé par rapport à l'enseignement philosophique. Comment ça se passe actuellement de notre temps ? Je pense que c'était en terminale que c'est arrivé.
Oui.
Maintenant, ça se passe
aujourd'hui,
comment,
ça se passe en première et en terminale.
Ouais.
Mais c'est déjà un bel effort.
Bien sûr, bien sûr.
Mais de plus en plus, des enseignants se forment aux pratiques philosophiques pour le proposer dans les primaires, dans les écoles primaires. Il y a énormément de formations pour ça.
Ouais.
Donc ça permet aussi aux enfants de s'initier un peu à la philo.
Un petit peu comme l'anglais qu'on peut commencer très tôt, comme ça.
Ouais.
On peut aussi donc commencer à aborder, à initier à la philosophie
à
sur
tout
les classes primaires.
Oui, tout à fait.
Petitement, comme ça, par le quotidien.
Mais voilà, ça peut se faire comme ça aussi. Ce qui est une bonne manière de leur permettre d'être en situation de réflexion. Et puis surtout en groupe, le groupe est très important.
Mmh.
C'est très important, le groupe. Et c'est ça dans les pratiques qu'on met en avant, parce que penser en soi, c'est facile. On le fait tous.
Ouais.
On tricote. On le fait beaucoup. Mais pour démêler, il faut les autres, en fait.
C'est ça, c'est l'échange, quoi. Ouais, c'est ouais. Le dialogue.
Oui, c'est le dialogue. Ouais. Et il ne faut pas que le dialogue soit un débat. Ça, c'est les politiques.
Ouais.
Mais pas en philo. Il faut que le dialogue, justement, dialogos, hein, il faut qu'il soit à travers la parole, à travers la pensée. Donc, et ça, il faut que ce soit assez structuré, de manière philosophique. C'est ce que je fais, sans être encore une fois une prof.
Oui, bien sûr.
De manière simple.
Une passeuse, quoi, aussi.
Oui, absolument.
Par rapport à tout ça,
ouais.
Quoi.
Ou traductrice, une passeuse. Ouais, ouais. C'est un peu ça. Ouais.
Et effectivement, évidemment que l'idée de ce rendez-vous avec les comédiens du théâtre Lumière, ces mises en scène, ces petites mises en bouche d'extraits comme ça, ça ne fera que. Comment est-ce que je vais finir cette phrase? Vous voyez, enfoncer le cou qui vient de. Mais ça, c'est pas terrible. Enfin, ce sera très bien aussi. très ludique, je veux dire, par là, le côté
c'est
ludique.
Très ludique.
Disons c'est un peu l'idée que je voulais.
Mais c'est que vous avez tout à fait raison, parce que c'est exactement ça. Si on dit à des gens, bon, ok, on va philosopher,
waouh,
c'est un peu sec, hein, ça fait un... Alors que le théâtre, c'est le véritable support. Parce que c'est joué, et tout à coup, ça va rentrer en nous, en tant que spectateur, et il va se passer, il y a un mouvement entre la scène et la salle qui va s'opérer, et le spectateur sera pris un peu à partie. Et vraiment, je vais arriver sur le rebond, vous voyez, pour philosopher, ce qui va permettre à chacun, et à moi aussi, hein, d'approfondir une réflexion qui s'est vécu et qui s'est faite sur le moment. C'est faire et en pensant se faire.
Ah, et puis il y a une certaine forme d'ivresse aussi dans la philosophie, le côté épicurien aussi de la chose, ou la philosophie de comptoir. C'est souvent d'ailleurs un truc un peu... philosophie de comptoir, enfin, mais il y a quand même de ça, cet échange-là aussi.
Alors, spontanément, il y a cet échange-là. Mais si on s'arrête à ça, ça va durer 3 secondes et on sera bloqué.
Ouais,
L'objectif et tout le défi aussi, c'est d'aller un peu plus loin. Bon, ça, c'est mon boulot.
Ouais.
L'art de rien, vous voyez. Il faut aller un peu plus loin.
Vous avez dit l'art de rien, c'est ça?
L'air de rien.
Parce que l'art de rien, il peut être bien aussi.
On peut dire l'art de rien aussi. Hein. Mais voilà, en fait, il faut pas s'arrêter justement à la philosophie du comptoir. Moi, je suis d'accord, je suis pas d'accord, etc. C'est pas ça. Vous parlez de l'épicurisme. Ben, l'épicurisme, justement, c'est un ascétisme. C'est pas du tout l'idée qu'on en a aujourd'hui.
Bien sûr.
D'être une forme de beuverie et d'orgie permanente. C'est tout sauf ça.
Ouais, ouais.
Mais d'un autre côté, une fois qu'on a compris l'épicurisme, on se dit, ah oui, quand même, quand on boit un peu, on se dit, ben, si je veux être épicurien, il faut que je m'arrête à ce verre-là.
C'est comme ça qu'ils font.
C'est comme ça.
On ne peut pas franchir cette limite.
Absolument.
De l'importance donc de votre présence sur ces moments-là pour recadrer un petit peu ce décor et rester sur des chemins philosophiques, de ne pas s'égarer aussi. Un petit peu de ça aussi.
Oui, pas s'égarer de la philosophie. Quoi. Je suis là. Je suis au service de la philosophie.
Les projets à venir, Sophie, en ce qui vous concerne, vous avez évoqué ce festival Philosophia, se monter à Paris aussi dans les EHPAD. Malheureusement, un thème aussi d'actualité, mais de l'importance aussi de philosopher avec les personnes âgées, le rapport à la mort aussi, des petites choses comme ça.
Alors oui, mais on ne parle pas de la mort dans les EHPAD.
Vous voyez, c'est la première imbécilité qui m'est venue.
Non, mais justement, moi je pensais que... Et puis non, on m'a dit on ne va pas parler de la mort.
Ouais.
On parle beaucoup de la transmission.
D'accord.
Ce sont des personnes, dans ce cas précis, c'est des personnes qui sont en troisième âge et pas en quatrième âge, donc déjà c'est un peu différent, mais j'aime bien parler de l'identité, de la transmission, qui sont très utiles. J'aime beaucoup faire aussi des ateliers ou des rencontres intergénérationnelles avec des plus âgés, des plus jeunes. J'aime pas cloisonner, je l'ai fait très longtemps, mais là je pense que c'est bien aussi de faire du mélange. Et puis pour les projets avec le Théâtre des Lumières, encore une fois,
mais voilà, justement, alors
on travaille sur la question de la guerre avec le Théâtre des Lumières pour une création. Les enfants font la guerre, qui sera donc que le Théâtre des Lumières monte, et je collabore avec eux. J'ai eu la chance et la grande chance de rencontrer de nombreux témoins de guerre, de conflits armés, de Seconde Guerre mondiale, Bosnie, Syrie, Ukraine, Darfour. J'ai rencontré, ça fait plus de 6 mois, presque un an même, que je rencontre ces personnes. C'est très émouvant, c'est très beau. J'écris des textes avec eux, les textes sont écrits, il me reste une personne encore rencontrée. Les textes sont écrits et ils sont pour le Théâtre des Lumières. Et à partir de ça, le Théâtre des Lumières, qui rentre en résidence la semaine prochaine, va créer une pièce de théâtre à partir d'un texte de Jean-Manuel Florença. Donc les enfants font la guerre. Et ces textes-là seront exposés avec des photos de chaque témoin. Il y aura une date au moment de la création, il y aura en plus une exposition, mais c'est bien ce va-et-vient entre le témoin, la salle, la philosophie, c'est vraiment un vivier de création qui est passionnant. Ça va être un très beau spectacle.
Oui, et je pense bien que sur Radio MDM, avec Aurélia, Laurence, Yannick et toute la bande, on aura l'occasion de le réévoquer tout ça. Parce que je crois que c'est des gros projets.
C'est un gros projet. Ouais. Et vraiment, je suis ravie de travailler avec eux. Donc, et puis d'avoir rencontré toutes ces personnes avec des témoignages très bouleversants et très émouvants.
Eh bien, ravi de la rencontre aussi, Sophie, pour ce rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour inviter les auditrices ou auditeurs de Radio MDM à venir donc au Théâtre du Péglé jeudi soir à partir de 20h30. Les conditions sanitaires, évidemment.
Les conditions sanitaires sont au top. Au top, bien évidemment. Et elles seront scrupuleusement respectées. Il faut un pass, évidemment, puis un masque. En ce qui concerne pourquoi venir, parce qu'il est temps de se réapproprier une pensée de terrain, de venir rencontrer Nietzsche, Platon, il y aura plein de surprises, il y aura évidemment Créon, Antigone, Ismène, donc on va aller sur le terrain de l'Antiquité jusqu'à la modernité avec des figures, il y aura des surprises, il y aura de la musique, il y aura de la philo, c'est super agréable. C'est jeudi à 20h30 au Péglé. C'est pas gratuit, c'est 12 euros. C'est 12 euros avec un tarif réduit également, que j'ai plus en tête, pardonnez-moi. Ouais. Et ça dure 1h30 à peu près. Ça sera vraiment un très beau moment. Très beau moment. Et puis, je veux rajouter quelque chose, si vous le permettez. Bon anniversaire.
Ah, la surprise, je ne savais pas que vous allez terminer comme ça. Merci beaucoup, Sophie Geoffrieux, puis au plaisir de se recroiser.
Avec grand plaisir.
Je vais tenter de caler le rendez-vous dans l'agenda jeudi à partir de 20h30.
Mais j'espère bien.
Et on a un tel emploi du temps après, mais bon.
Puis vous amenez du monde.
Oui,
en plus.
Oui, avec grand plaisir.
Il reste quelques places.
Très bien. À très bientôt, Sophie.
Merci.
On le décline en musique, ce thème de la philosophie, avec ce belle chanson de Georges Moustaki, La philosophie qui nous permet de chanter. Vous la connaissez, ça là. La 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 la. Vous l'avez
hein? Je l'ai, mais je vous laisse chanter.
Merci, Sophie.
Merci à vous.
C'est une jolie bande de joyeux fêtards qui se couche à l'aurore et se lève très tard, ne pensant qu'à aimer ou jouer de la guitare. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Ils ne font rien de plus que fêter chaque instant, saluer la pleine lune, célébrer le printemps. Si bien que pour travailler, ils n'ont plus guère le temps. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Et je me reconnais en eux assez souvent, comme je gaspille ma vie à tous les vents. Et je me dis qu'ils sont mes frères ou mes enfants. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. S'ils passent parmi vous, regardez-les bien vivre, et comme soyez fous et comme soyez ivres, car leur seule folie c'est vouloir être libre. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Ils vieilliront aussi, qu'ils restent ce qu'ils sont, des viveurs d'utopie aux étranges façons, des amants, des poètes, des faiseurs de chansons. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. La 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 la
MDM, tout un monde.